Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, on est le troisième dimanche du mois de février, et puis on se fait plaisir en invitant les copains et on va parler moto. On va commencer avec Christophe de Motomag.
Oui, bonjour, c'est pas mon jour habituel.
Ouais, mais... c'est pas...
Je suis là.
Ouais, toi, c'est le premier dimanche.
Voilà, même. Voilà. Mais on va un peu parler Motomagazine et puis on va surtout parler du Salon de Lyon.
T'as pris un petit coup de froid là.
Je suis un peu enroué. Donc le Salon de Lyon, alors il y a 11h là, si vous sautez dans le train, vous pouvez être quand même en début d'après-midi sur le parc des expositions. Hein, donc vous aurez un programme alors j'ai vu Enduro Vintage.
Il y a plein de trucs à voir là-bas. Il y a plein de choses.
Il y a le mur de la mort. Ouais. Il y a l'enduro indoor. Il y a même d'ailleurs des compétitions.
Il y a même une piste électrique.
Et tout à fait. On peut essayer. Alors il n'y a pas que l'électrique. Hein. Je rassure Nico. Hein, c'est ouvert. Il y a la piste trail, il y a la piste trial vintage.
Il y a aussi l'intrépide, une épreuve burlesque.
Voilà, et puis il y a même une piste enfant hein, pour la génération qui monte, là, ouais. Et leur donner l'envie de rouler en deux roues.
Tu vas avoir quelqu'un pour en parler ?
Alors, effectivement, on a un correspondant sur place. On a une belle pointure, là, hein, Jean-Marc Bellotti. Donc Jean-Marc qui tient le stand d'ailleurs des randos Motomag et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il interviendra tout à l'heure. Et donc on lui demandera de nous faire un petit écho quand même du salon parce que lui ça fait 3 jours qu'il y est.
Ouais. Hein,
et donc on l'aura à l'antenne tout à l'heure si nous arrivons à le joindre.
Et t'as vu que sur son stand il y a Luc Cotterelle qui expose sa moto ?
Alors non, j'ai pas effectivement été jusque là mais il nous en parlera tout à l'heure.
On pourra faire un petit coucou comme ça.
Voilà.
Ça marche, merci Christophe. On a Nounours. Salut Nounours.
Bonjour.
On peut t'appeler Patrick ou Nounours ?
Comme vous voulez.
Ouais, on a le droit. On peut encore t'appeler Nounours alors.
Ouais.
Et donc toi, t'es des amis de la moto.
Ouais.
Et tu viens nous parler du salon qui va se dérouler dimanche prochain.
Voilà, à Wascal.
Le Vintage Moto Show, c'est ouais. ça ouais. C'est la cinquième édition, je crois.
Quatrième,
ouais. Enfin, c'est écrit dans le calendrier. On le vérifiera
ouais.
après. Donc, vous allez. Cette année, il n'y a pas de thématique particulière ?
Non. On avait envisagé peut-être de faire les petites cylindrées. Et puis, bon, faute de combattants, c'est trop restrictif.
Ouais.
Donc,
ouais.
On a ouvert aux vieilles.
Ouais, voilà. Ouais. Et vous innovez quand même un peu cette année, non ? Il va y avoir des trucs à l'extérieur en plus ?
Ouais, donc, un peu comme les autres années, il y avait quand même des commerçants là, sur le parking à l'entrée. Et là, cette année, on a prévu une zone réservée pour mettre des motos en dépôt-vente.
Ah ouais. Vous avez déjà des propositions ?
Pas beaucoup, non.
C'est sur réservation ou on peut se pointer comme ça ?
Bah, on pourrait se pointer comme ça, mais ça serait mieux de réserver un peu pour qu'on puisse organiser le barman.
On passera le message.
Ouais.
Tu donneras un numéro de téléphone
où
on peut appeler.
Ouais, ouais.
Ensuite, on a notre ami Nico, le spécialiste Grand Prix, là, qui a suivi pour nous les essais de Sepang.
Ouais, bonjour Luc. Ben oui, on est un petit peu fébrile parce que la saison de MotoGP, on n'a plus rien tout d'un coup. Au mois de novembre, ça s'arrête. Donc on est
dès qu'il y a un petit truc
pour savoir comment ça va se passer cette saison-ci, on est attentif, on est curieux. Et il y a eu effectivement 3 jours d'essais en MotoGP pour un petit peu l'apéritif de la saison.
Et il y a plein de leçons déjà à tirer.
Bah on essaye de tirer des leçons, mais ce ne sont que des essais, hein, donc on rêve un peu. On décortique tout ça pour essayer de voir un petit peu les tendances.
On verra ton analyse tout à l'heure.
Ouais.
Ok. Christophe, bonjour. Merci d'être venu. T'es venu avec Dame Béatrice, Madame la vice-présidente. Bonjour.
Voilà. Président, vice-président ensemble.
Et t'as encore de la neige là sur ton blouson là.
Mais c'était une année sans neige. Hein.
Tu reviens des éléphants. Ah ouais, non, c'est de la boue. C'est de la boue.
Beaucoup de boue.
Beaucoup de boue. T'as pris un bain de boue.
De pluie, oui,
c'est ça que t'as une belle peau aujourd'hui. Hein.
Je l'aurais pas juré.
Donc tu nous parleras de ton périple.
Les éléphants à Zola. Oui, moi, c'est la première fois que j'y allais à Zola. Hein.
C'est vrai.
Non, mais j'ai déjà été 8 fois au Nürburgring, mais là c'était la fois où il fallait y aller. Et malheureusement, mauvaise année.
Pas de neige.
Non, pas de neige.
Mais de la boue, c'est ça qui est principal. On a Marco aussi qui vient de nous rejoindre de la FFMC
Oui, bonjour à tous.
Donc tu vas revenir sur le relais Calmos, je crois, c'est ça ?
Exact.
Qui s'était roulé à l'occasion de l'enduro du Touquet, là.
Voilà, tout à fait.
Voilà, d'accord. Et puis peut-être des nouvelles de la FFMC aussi, un peu ?
Un petit peu de nouvelles de la FFMC, si vous voulez. Oui, pas de problème.
Ok, super, on est là. On aura aussi notre ami Lionel de Courtel, le président du motoclub de Mormal, qui organise son salon de la moto, là, au 1er mars, et qui, le vendredi soir... propose une rencontre débat avec Anne-France de Tonneville, la première femme qui a fait un tour du monde en moto dans les années 70. Tout un programme.
On a des choses à raconter.
Ah ouais, plein. Et puis on va finir le tour de table en citant à la radio et à la programmation musicale
à la radio.
Monsieur Laurent.
Bonjour à tous.
Je suis un mannequin glacé avec un teint de soleil, ravalé, empressé, mes conneries proférées sans le destin du monde, je n'ai pas le temps, je file ma carrière est en jeu. Je suis l'homme médiatique et je suis plus que politique et je vais vite, très vite. Je suis une comète humaine universelle. Je traverse le temps, je suis omniprésent, je suis une référence et je deviens omniscient. Mais j'ai envahi le monde que je ne connais pas. Peu importe, j'en parle, peu importe, je sais. J'ai les mains, mes pieds, 8 milliards potentiels de crétins asservis, à part certains de mes amis du même monde que moi. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont gays. Qui veut de moi et des miettes de mon cerveau, qui veut entrer dans la toile de mon réseau. Militant quotidien de l'inhumanité, des profits immédiats, des faveurs des médias. Moi je suis riche, très riche, je suis dans l'immobilier. Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Je connais le tout Paris et puis le reste aussi. Mes connaissances uniques et leurs femmes que je fréquente évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi. Il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Exploser l'audimat, pulvériser l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'ils demandent, nous les savons à vie. De notre correteur, mieux que de la confiture à des cochons. Qui veut de moi de mon cerveau, qui veut entrer dans la toile de mon réseau, parce que vous savez que je suis un homme pressé, un homme pressé, un homme pressé, un homme pressé, un homme pressé. De l'humanité, puis des profits immédiats, et puis des faveurs des médias. Moi je suis riche, très riche, je vais dans l'immobilier. Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Et puis je traverse le temps, je suis devenu omniprésent. Je suis une super référence, je peux toujours ramener ma soif. Moi je suis riche, très riche, ma carrière est en jeu. Je suis l'homme médiatique, moi je sais plus que politique. Quand je suis un homme pressé. Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Love, 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 dit-on en Amérique. Lyubov, Russie ex-soviétique. Amour aux quatre coins de France et d'Italie.
Oh. Tu sens que ça sent l'huile de ricin un deux temps, hein? C'était un deux temps. On a Jean-Marc Bellotti au téléphone du Salon de Lyon. Jean-Marc?
Oui, bonjour.
Ouais, bon, bonjour Jean-Marc. Bon, t'es au taquet là sur le Salon de Lyon?
Ouais, ouais, je suis au taquet. Vous entendez bien parce que là, comme il y a pas mal de brouhaha autour de.
Oui, si, si,
autour, ça. Là, c'est ça, un peu de bruit.
Ça passe très bien, effectivement.
D'accord.
Alors, je t'ai contacté. Il faut rappeler donc que tu es aujourd'hui le coordonnateur, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, des
rendez-vous. Ouais, coordinateur, ouais.
Voilà, des randos Motomag, et donc t'es sur le Salon de Lyon à ce titre, mais moi je t'ai joint pour deux raisons. D'abord parce que t'es sur le Salon de Lyon, donc t'es un peu notre découvreur du salon. Alors moi j'avais été sur ce salon il y a déjà 14 ans, ça commence à remonter, ça a bien évolué, hein. Donc tu peux nous donner un peu un éclairage, l'ambiance?
Ah oui, tout à fait. Alors oui, ça a énormément évolué le Salon de Lyon. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le Salon de Villefranche-sur-Saône aussi, qui existait en même temps que le Salon de Lyon.
Oui.
Le Salon de Villefranche commençait à prendre un peu le dessus, et puis après, pour différentes raisons, c'est le Salon de Lyon qui est revenu en tête. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est tout simplement le constat de dire que c'est le plus beau salon, c'est le plus beau salon moto en France, hein, le plus grand déjà. Et puis en termes de qualité, c'est quand même pas mal parce qu'il y a une très très belle prestation. Il y a des essais, il y a des animations, il y a de l'enduro indoor, il y a énormément de stands qui sont mis en place. Et fait est constaté que même par rapport à ce qu'on appellerait le mondial du deux roues de Paris, qui n'est plus vraiment un mondial, ce salon-là est largement plus...
Leur recette, c'est d'avoir créé des univers, et donc finalement, tout un chacun peut trouver un petit peu chaussure à son pied dans l'affaire.
Il y en a pour tous les goûts, hein, il y en a pour tous les goûts, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un salon où on peut aussi venir en famille. Alors par exemple, c'est peut-être le Dan de plusieurs motards qui ont des épouses peut-être qui ne s'intéressent pas plus que ça à la moto. Bah ici, on peut venir avec son épouse ou une fille qui a son mec qui ne s'intéresse pas à la moto et qui est motarde. On peut venir ici, il y a d'autres animations qui peuvent intéresser les gens, même les enfants. Et puis effectivement, comme tu disais, il y a plusieurs univers. On a l'univers des bikers notamment, qui est très très sympa, avec des petits concerts, des apéros, les gars ils ont déplié les canapés, il y a vraiment une ambiance vraiment sympa, très très biker, très, très marqué biker, il y a des stands sur les sportifs, il y a des accessoiristes, il y a vraiment de tout.
Oui, il y a un marché de l'occasion, là j'ai vu qu'il y avait une centaine de machines, toutes plus belles les unes que les autres, qui étaient effectivement à vendre par les concessionnaires. Il y a l'espace voyage, et ça tu nous en parleras tout de suite après. Bien sûr, il y a les pistes, et puis tu l'évoquais, là, les animations, il y a même une compétition d'enduro, là j'ai vu.
C'est ça, tout à fait, il y a un enduro indoor, il y a du trial, il y a tout un tas de démonstrations. Il y avait même un enduro vintage avec des motos des années 80. Il y a un espace Paris-Dakar, des motos du cadre du Dakar. C'est vraiment très très sympa. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est un salon qui fait remonter aussi dans l'histoire de la moto. Il y a pas mal de motos. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein.
Oui, j'ai vu qu'il y avait. Oui, il y avait un clin d'œil à Steve McQueen. Un espace découverte de ses motos emblématiques, là, de sa filmographie.
Absolument. Il y a aussi un espace dédié au cinéma et à la moto, donc avec des motos qui ont marqué le cinéma, qui sont exposées avec l'affiche du film derrière la moto, plus un écran qui retrace un petit peu le film où elles sont apparues.
On connaît bien parce qu'on a eu un calendrier Kikinkou qui faisait référence. Donc on a les images.
Et il y a la bécane de Captain America qui est exposée?
Ah non, elle est pas là, celle de Captain America, malheureusement. Mais il y a par exemple la BM qui est tournée dans James Bond. Il y a la moto de Mammouth, du film Mammouth avec Depardieu. Il y a des motos comme ça qui ont marqué un petit peu l'histoire du cinéma qui sont là.
Est-ce que tu as vu le stand Vauxhall?
Alors, j'ai pas vu le stand Vauxhall, non. Parce que, alors, il faut dire que, alors moi, je suis là sur le stand Moto Magazine, donc je suis là pour le boulot. Et donc, j'ai essayé de tourner au maximum, mais le salon est grand. Il y a 10 000 m² d'exposition. Donc, c'est pas évident d'aller partout, quoi.
Ouais, c'est concentré.
On fait tous les halls, ouais, c'est très concentré. Et même quand on va dans tous les halls, ce que j'ai fait, j'ai réussi à aller dans tous les halls, mais on rate pas mal de stands parce qu'il y en a tellement que voilà, c'est un peu compliqué. Quoi.
En ouverture d'antenne, là, je disais à nos amis lillois, enfin de la métropole, qui pouvaient encore sauter dans un train pour y aller cet après-midi. C'est quoi là, ça fait le troisième jour, hein, c'est le dernier jour.
Alors, c'est le dernier jour, hein, c'est le dernier jour, très honnêtement, pour visiter ce salon de façon détaillée, je dirais. À mon sens, il faut plus qu'une journée. Si tu viens une journée et demie, c'est bien. Alors après, évidemment, hein, pour les gens qui veulent voir certaines choses très précises qu'ils ont déjà en tête, bah, une demi-journée, c'est suffisant. C'est, hein. Mais bon, c'est un salon où il faut se balader au moins une grosse journée. Hein.
Ouais, c'est pas la première fois que tu y participes. C'est un bon cru, là, cette année, au niveau participation?
Ah oui, très bien. Franchement, très bon cru. Il y a eu un petit peu de monde sur les deux journées pro qui étaient jeudi et vendredi. Et puis le vendredi, il y a eu nocturne jusqu'à 23h. Et là, à partir de samedi, donc à partir d'hier et aujourd'hui, là oui, ça commence à rentrer vraiment très fort. Hein. Donc il y a beaucoup de monde.
D'accord, ça souffle aussi par chez vous là
Ah oui, gros vent. Gros vent. Okay. Là, ce soir, je rentre à Paris sous la pluie, là c'est prévu déjà. Et à moto, donc forcément. Et puis, l'avantage ici, c'est que. Le parking est très grand, il n'y a pas de problème, il y a une très belle consigne de casque qui est tenue par la FFMC locale, donc la FFMC 69, une très grosse consigne où les gens peuvent laisser leur casque, leur blouson, etc. Donc c'est vachement plus pratique pour pouvoir se balader. Un parking qui est bien surveillé. C'est vraiment très très bien organisé.
Ok, bah écoute, super pour cet éclairage sur le salon.
Pour une fois, j'ai rien à dire de mauvais.
oui, c'est vrai qu'on t'a connu sous d'autres jours. Bon, donc on va te retrouver sur ton stand là dans 5 minutes. On va écouter un morceau de musique et puis on va aborder donc les randos Motomagazine. C'est d'ailleurs pour ça que je t'avais rejoint tout à l'heure.
À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure.
À tout de suite.
À tout à l'heure.
Tell me why.
êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, et on continue, on va directement à Lyon.
Alors, on retourne à Lyon, effectivement, retrouver notre ami Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour.
Donc, après ta description du salon, là, un peu d'exotisme, tu vas nous parler des randos Motomag.
Oui.
Donc, vas-y, recadre un peu de quoi il s'agit.
Alors, les randos Motomag, ce sont des randos qui sont organisés pour tout le monde, en fait. Hein. Au départ, c'était pour les abonnés Motomagazine. Mais aujourd'hui, elles sont organisées pour qui veut y venir. Et donc, ce sont des randos qui se passent généralement à l'étranger. Et on fait une rando par an. On en fait une seule par an. Enfin, un parcours par an. Et on le fait trois fois. C'est-à-dire, d'habitude, deux fois en juin, une fois en septembre. Et cette année, on le fera une fois en juin et deux fois en septembre.
D'accord. L'année dernière, c'était au Maroc.
Et cette année, on a fait le Maroc.
Et cette année, c'est pas très loin de Lyon.
Et cette année, c'est pas très loin de Lyon. C'est l'Italie.
Voilà. Donc un périple.
L'Italie du nord au sud et du sud au nord, en fait. Un périple qui va faire 3700 km. Donc c'est des randos qui se veulent culturels, hein, puisqu'on roule toute la journée. Mais on s'arrête aussi pour faire des visites sur des points intéressants. Là, notamment, on s'arrêtera à Pompéi pour voir, pour visiter la ville de Pompéi qui a été submergé par le volcan Etna. Et puis après on ira dans les Pouilles, dans la région des Pouilles. Donc on descend vraiment jusqu'au fond du sud. Et puis après on remonte à nouveau vers le nord.
D'accord. Donc la préparation de ce genre de... Je sais que tu rentres là de repérage. Tu fais donc des repérages,
oui.
les hébergements. C'est combien de participants, ces randos? Elles sont quand même à place limitée?
Elles sont à place limitée parce qu'on veut garder une convivialité du groupe. Donc on limite à 20 chambres, hein, donc 20 chambres entre les gens qui prennent une chambre à deux ou les couples, etc. Bref, ça fait environ plus ou moins une trentaine de motos. Mais on roule par groupe de 6 maximum. Donc on fait plusieurs petits groupes de 6. Chaque groupe a un accompagnateur, un ouvreur, avec un roadbook électronique Trippy, puisqu'on travaille avec Trippy. Et puis, si les gens veulent rouler seuls parce qu'ils n'ont pas envie de s'intégrer dans le groupe, on leur passe un roadbook électronique Trippy, on leur explique comment ça marche, c'est super simple, et ils peuvent rouler tout seuls. Le seul truc, c'est de se retrouver le midi au restaurant, on déjeune tous ensemble, et puis bien évidemment le soir à l'hôtel qui est déjà réservé.
D'accord. Il y a un profil de participant par rapport à la pratique de la moto, type de moto?
Non. Alors, c'est ouvert vraiment à tout type de moto. Ça peut aller de la custom à la sportive en passant par la routière. C'est ouvert à tout âge. On prend, nous, essentiellement des routes, des toutes petites routes. On prend rarement des très grandes routes. Ou alors, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Mais on prend des toutes petites routes bien viroleuses. On passe en montagne, on passe en corniche. Là, notamment, on va passer dans la région des Alpes. On va passer dans les Apennins, les Abruzzes, toute la région de la Toscane. On va passer aussi sur les corniches de la côte amalfitaine. Donc on va faire des très très belles routes. Et nous, on choisit des routes justement pour leur qualité visuelle. Hein. Et puis aussi, on s'arrête le midi dans des petits restos typiques. On essaye de toujours bien déjeuner, bien évidemment. Et le soir, on s'arrête dans des hôtels qui sont des hôtels entre 3 et 4 étoiles. Donc on est très très vigilant sur la qualité aussi de l'hébergement. Hein. Puisqu'on veut faire un truc, donc on ne fait pas de camping. C'est pas la volonté là. Mais on veut faire des hébergements qui soient plutôt sympas, plutôt typiques, tu vois, pas des grands hôtels, pas des gros hôtels, mais des petites structures. C'est pour ça qu'on réduit aussi à 20 chambres. C'est plus facile pour nous de trouver des petites structures locales, familiales, mais de qualité.
Oui, vous allez bientôt fêter les 10 ans des rondos.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Est-ce que celui qui serait intéressé, mais qui est encore hésitant, est-ce qu'il y a des sur YouTube ou vous avez des vidéos qui montrent un peu justement ce que vous voyez, ce que vous organisez?
Alors sur YouTube, non, on n'a pas vraiment de... Je crois qu'il y en a une qui tourne. Mais en fait, on ne fait pas énormément de promotion ni de publicité parce qu'elles se remplissent très très vite. On a un site internet qui s'appelle rando-moto.com. Mais on ne fait pas énormément de publicité. Il va y avoir une pub qui va passer dans Motomag, là. Elles se remplissent assez vite. Donc, on ne fait pas une grosse promo. Quoi.
Okay. Pour celle de juin, il y a encore de la place ou...
Alors, celle de juin, il doit rester 2-3 places, je crois. Et après, il y a celle de septembre. Il y en a deux en septembre. Donc, celle de juin... Elle part du 13 juin au 27 juin. Et les deux de septembre partent du 5 au 18 septembre et du 19 septembre au 2 octobre. Là, il y a encore quelques places sur ces deux-là. Sur celle de juin, je te dis, il y aura deux, trois places, je crois.
Et le prix est le même, quelle que soit la période ?
Oui, quelle que soit la période, le prix est le même, parce que les prestations sont exactement les mêmes. Hein. Donc, c'est 2400 euros. Donc, ça comprend tout. Hein. Ça comprend, donc bien évidemment, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, l'hôtel. Ça comprend les visites. On a un camion d'assistance mécanique avec une moto de rechange à l'intérieur au cas où il y a une grosse panne, avec un mécano professionnel qui répare pratiquement toutes les pannes, tout un tas d'outils parce que c'est un camion atelier. Il y a également un camion bagage où les gens peuvent déposer tout leur bagage dedans, comme ça ils ne sont pas emmerdés à se trimballer tout leur matos. Voilà, plus tous les ouvreurs. Donc c'est un truc qui est plutôt... alors je dis toujours que c'est organisé, mais ce n'est pas contraint. C'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent. En fonction des groupes, ils peuvent rouler dans un groupe qui roule plus vite, ils peuvent rouler sur un groupe qui roule moins vite. Chacun y va en fonction de son niveau. Et il est possible de changer de groupe pendant la randonnée à volonté. Quoi, hein. Si la personne dit « bon, bah, là, je me fais chier, ça roule pas assez vite », il peut très bien rouler dans un groupe qui roule un peu plus et ou vice-versa. Donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà.
Bon, bah écoute, effectivement, si vous voulez en savoir plus dans le numéro donc hors-série de Moto Magazine de l'année dernière, hein, donc de 2019, les plus belles routes de France, il y avait les escapades à l'étranger, et donc il y a tout un article avec tes coordonnées, ceux d'Isabelle, donc la collègue avec laquelle tu organises ces randos, et puis l'adresse internet dont je rappelle donc l'adresse rando-moto.com, où vous trouverez toutes les infos. Et le Facebook est toujours opérationnel ?
Oui, tout à fait, il y a une page de Facebook. Alors le Facebook, il faut aller sur la page Rando Moto Mag.
Oui.
Voilà, et là, le Facebook est toujours opérationnel, bien évidemment. Et c'est des randos où il y a vraiment une très, très bonne ambiance. C'est ce qu'on veut, nous. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un truc... on veut pas faire du voyagisme, on va dire. On ne veut pas être voyagiste. On veut vraiment... On est plutôt dans le... On s'approche plus du motoclub, de l'ambiance motoclub, que de l'ambiance groupe de voyage. Quoi.
Je vois, justement, dans le hors-série, il y a aussi les escapades dans les Dolomites. Est-ce qu'il est prévu au programme ? Non.
Alors on va passer dans les Dolomites pour l'Italie, là justement on passe entre autres aussi dans les Dolomites.
Ok.
Voilà. Donc, donc c'est encore une fois des randos qui se fait trois fois par an, mais sur l'année, mais avec ce parcours-là. Et puis l'année prochaine, on hésite encore, mais ça sera peut-être l'Irlande ou l'Écosse.
Ah, l'Irlande, on connaît ici.
Parapluie.
Et le départ, il se fait de Paris, c'est
alors,
où qu'on
non,
se retrouve?
Non, pas du tout. Le départ, donc comme toutes les gens viennent de toutes les régions de France, en fait, hein, donc on se donne rendez-vous du côté de Barcelonnette, dans un hôtel, donc, et puis là, les gens arrivent à partir du samedi après-midi. On les accueille avec un pot d'arrivée, on fait un briefing, on dîne, on va se coucher, et le lendemain, boum, tout le monde part. Donc on se donne toujours rendez-vous tous à un point, de façon à ce que ce soit pratique pour tout le monde. Hein.
Alors tu nous parles de Barcelonnette, ça me fait penser que justement, à Barcelonnette, Luc Cottrel a été lauréat effectivement du prix du film d'aventure, et donc il partage votre stand pendant tout ce salon.
Absolument, alors Luc est avec nous sur le salon, avec sa moto, et donc une vidéo qui passe, hein, le film de son voyage qui passe, c'est quand même très très impressionnant.
Ouais, c'est... Il est bien fait en plus. Hein.
Ah, il est très très bien fait. Et puis c'est un ch'ti gars du Nord aussi. Hein,
bah ouais, bah
Luc.
Ouais.
Ah bah voilà. Ouais. Bien. Donc faut quand même qu'on en parle. Alors, c'est un mec super courageux. Il a fait un truc hallucinant quand même. Il est parti plus de 2 ans en Afrique tout seul avec sa GS.
Et tu sais qu'il avait jamais roulé dans le sable en plus au début.
Jamais fait de piste, jamais roulé dans le sable. Il avait aucune expérience. Non mais c'est un fou. Hein.
Ce qui est impressionnant dans son entreprise, c'est que le film, c'est lui qui l'a fait.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que il y a des films d'aventure, il y a des séries qui tournent au niveau national, et qui sont faits évidemment avec des équipes de vidéastes, de caméramans.
Ouais, ouais, ouais.
Là, il est parti seul avec son matos et il en a tiré. Bon, il a galéré. Il a galéré. Hein, quand on discute avec lui.
Oui, il a galéré. Mais il s'est mis en danger. Oui, c'était chaud.
Comme ça, il avait des trucs à raconter.
Donc à découvrir. À découvrir sur votre stand. Et puis si l'Italie vous dit, eh bien, n'hésitez pas. Contactez Jean-Marc. Merci en tout cas de ta participation.
Merci
et puis
à vous, les gars.
Bonne route.
Ouais, bon courage. Attention, attention au vent.
Et l'on vit à Kikaku et tout pas.
Ah, merci, ça va.
Allez, bonne fin de salon.
Salut.
À bientôt. Ciao, ciao.
sit down and out in Frisco, tired of the pills and the rain. I picked up headed for the sunshine, I left a good thing behind. Soon all of our love was in vain. Now my baby's coming in on the Tucson train. I come here looking for a new life, one I wouldn't have to explain to that voice that keeps me awake at night, when a little peace would make everything right. If I could just turn off my brain. Now my baby's coming in on the Tucson train. Nothing for a long time. Now I carry my operator's license and spend my days just running this crane. My baby's coming in on the Tucson train. Work will clear your mind and body. The hard sun will burn out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station, praying to the 515. I'll wait on God's creation just to show a man can change.
Et après Lyon, nous allons aller à Wascal, parce qu'il y a un salon de la moto vintage.
Il y aura dimanche prochain donc, ouais, le Vintage Moto Show. On organise donc, avec le club Les Amis de la Moto. C'est fait avec la ville de Wascal, les Vieux Clous, les Caïmans, Kikinkouté Toupal aussi, je crois, vous connaissez un peu. Le Triton, le Team Rabbit, enfin voilà.
Pour, que du beau monde, quoi.
Ouais, les partenaires. Et puis, donc oui, une expo moto ancienne. Bon, c'est pas gratuit, mais quasi, c'est 2 euros l'entrée. Et puis, bah, que des vieilles, enfin, des vieilles et des moins vieilles en exposition.
C'est-à-dire des vieilles, comment ?
Bah, du début jusque dans les années 80, ouais, dans ces eaux-là.
D'accord. Et c'est les bécanes des Amis de la Moto ?
Il y a un peu de tout. Bah on fait appel aux bonnes volontés pour les gens qui ont des belles machines et puis qui veulent bien les exposer et puis faire la manutention aussi.
Et il y a les clubs amis qui ramènent aussi des bécanes.
Ouais, comme bah, toutes les relations possibles.
Comme les Vieux Clous, par exemple.
Ouais, qu'on a.
Ils viennent en roulant ou ?
Il y en a qui viennent en roulant, oui, oui, oui.
C'est les Vieux Clous qui disent tout le temps qu'une moto, c'est fait pour rouler, même
ouais.
Une moto ancienne.
Ouais, ouais. On a un copain qui est venu de Malaisie, là, il y a 2 ans, je crois, avec une Triumph T100, un vieux machin tout pourri.
Ah ouais.
Et il a fait l'aller, le retour, deux fois de suite, je crois.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Bon, là,
avec la caisse à outils sur le...
Bah, pas trop, non. Non. Là, il y a des petits soucis, faut rénover la machine, mais celle-là, elle a des bornes. Hein. On l'avait exposé, je ne sais plus, il y a un an ou deux, dans son jus, le truc... directement issu de la route.
Alors, les années précédentes, il y avait aussi une partie bourse, bourse de pièces.
Oui, il y a toujours, ouais, donc une partie bourse, bouquins, fringues, des accessoires, on va dire. La partie expo moto, à proprement parler. Les tonnels club, donc dans la partie expo moto. Et puis, à l'extérieur, il y a vente de magasins, des
professionnels.
Des fringues, des plaques, des choses comme ça. Et puis cette année, on a prévu une zone de dépôt-vente, si on peut dire, qui permettrait aux gens de venir amener leur moto à vendre. Et donc là, ça serait 10 euros pour mettre la moto en vente. Et puis donc on va essayer de mettre une tonnelle réservée à ça. Sur l'extérieur, sur le parking.
Ouais, parce que en fonction de la météo, tu auras plus ou moins.
Oui, il y a quand même un petit risque qu'on n'ait pas trop de soleil. Ça, des fois, ça arrive, il paraît.
Et c'est réservé aux motos anciennes
Non, la là, vente sur, des motos, non c'est sur le dépôt-vente, c'est ouvert à tout le monde. Moto à vendre.
Tu crois qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront donner 10 euros pour exposer leur moto, alors que sur le Bon Coin, tu peux en avoir des pages et des pages?
Ouais, on verra. Bah, ça peut être l'occasion aussi de balader et puis de voir l'expo en même temps. Ça ramène quand même pas mal de monde, donc c'est du local, c'est aussi parfois plus rapide.
Ouais, je me souviens, l'année dernière, il y avait du monde. Vous avez fait combien d'entrées, tu te souviens, non?
Bah, on est toujours autour de 2000 entrées, je crois, quelque chose comme ça.
C'est pas mal, quand même. Ouais, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses, en plus, dans la salle. Donc, quand il y a beaucoup de monde, tu dois...
Il y a des moments, c'est dense, ouais. Et puis, les machines sont assez serrées aussi, donc voilà.
En même temps, il y a plein de choses à voir, du coup.
Il y a plein de choses à voir. Il y a une buvette sandwich aussi, pour rester là... Non-stop, si on veut.
Vous êtes en plein dans les préparatifs, là, où ça y est, c'est bon, c'est fini,
c'est rodé,
non,
c'est jamais fini.
Ah ouais, c'est encore toujours à l'arrache, c'est ça.
À l'arrache, ouais, bah, c'est un peu le thème du truc. Mais non, c'est jusqu'à la veille, quasiment.
Ah ouais, des surprises.
On va vraiment boucler le truc vendredi soir.
Pourtant, pour cette cinquième édition, vous devez être rodé, quand même.
Oui, c'est pour ça qu'on ne s'inquiète pas trop.
Cool. Il va falloir prévoir de la corde pour les tonnels.
Ouais, peut-être.
Ou puis des poids aussi, peut-être.
Ouais, pour les mettre au bout des cordes.
Pour les lester.
Quelques motos pour les
tenir. Ah bah ouais. Bonne idée, ouais. Mais vous ne faites pas que ça, vous ne faites pas que un salon, les amis de la moto.
Bah non, on a traditionnellement trois balades dans l'année. Une balade de printemps... souvent autour du mois d'avril. Cette année, c'est 4 et 5 avril. Une balade d'octobre au moment des betteraves, c'est aussi la deuxième balade. Et puis, donc ça, c'est des balades qu'on fait qui sont ouvertes, je vais dire, une quarantaine de personnes à peu près.
D'accord, c'est pas que réservé aux membres du club ?
Bah non, c'est pas réservé, mais c'est le même modèle que la rando Motomag.
Ouais,
c'est que les gens se positionnent et puis c'est relativement vite plein. Et puis depuis quelques années, là, ça doit être la cinquième cette année, on fait ce qu'on appelle un super rallye. Et donc là, on part pour quasiment deux semaines. On a fait l'Italie, le Vercors, l'Aveyron cette année, et puis l'année prochaine, enfin cette année au mois de septembre, là, ça sera un rallye en Écosse. Et donc ces rallyes-là, comme ils sont plus longs et puis plus lointains, en général au niveau de l'organisation, on est un peu coincé, et du coup on réduit le nombre de participants, en gros une quinzaine de personnes.
Et c'est en ancienne.
Qu'est-ce que vous appelez ancienne ? À partir de quand c'est une ancienne ?
La moyenne d'âge pour les motos, ça va être des années entre 60 et 70.
D'accord.
Et vous avez trois camions de mécaniciens qui suivent ?
Pas du tout. Il y a un camion dans lequel il y a la XT de Bruno, au cas où, comme disait tout à l'heure
Jean-Marc,
s'il y a une grosse panne. Donc, il y a la moto, une grosse caisse à outils, et après, c'est plutôt les pique-niques, les bancs, les tables, les bagages dans le camion. Et puis, bon, globalement, ça se passe bien. C'est souvent les motos modernes qui tombent en panne, quand il y en a.
il faut réserver, donc t'as quoi ? T'as un site internet, un téléphone ?
Il y a un téléphone, oui, c'est Bruno qui gère les inscriptions globalement pour le salon. Et puis pour les comment pour les rallyes, balades, ben, en général, c'est lui aussi. Donc c'est son téléphone, le 06 62 45 71 97.
C'est celui qu'on retrouve sur l'affiche du salon.
Sur l'affiche et les flyers, ouais, c'est ça.
Et qu'on a également dans le calendrier Kikinkou, ouais. À la page 19.
C'est ça. Et par contre, pour la bourse, c'est Luc qui s'en occupe. Et donc là, son numéro apparaît pas dans le flyer, on a zappé un peu le truc. Et donc, ça serait le 06 25 60 78 44.
Donc, c'est...
donc ça, c'est pour la bourse.
C'est ça, c'est dimanche prochain. C'est... ça se trouve exactement à la salle Pierre Herman, c'est ça ?
C'est ça, Pierre Herman, et Herman. C'est rue Jean Massé à Ouascal. Okay. C'est une salle de sport, enfin, salle polyvalente plutôt, et une bonne surface, il y a un parking devant. Ça n'empêche pas que tous les parkings autour soient relativement pleins. Ouais. Mais il y en a pas mal là, sur l'entourage. Il y a pas mal de parkings.
Et ça commence à 10h du matin.
Oui.
C'est le 23 février.
10h, 18h.
Avec une entrée à 2 euros.
Voilà.
Très raisonnable pour tout ce qu'il y a à voir.
Et des gobelets en location.
Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
C'est bien ça.
C'est cool. C'est bon ? T'as dit tout ce que tu voulais dire ?
Ouais.
En tout cas, ça nous donne envie et on se retrouvera puisqu'on y sera là-bas et on fera des petites interviews en direct dimanche prochain.
Ça marche.
À tout de suite. Ça, c'est du rock'n'roll sur Radio Campus. Kikinkou, le magazine de la moto tous les dimanches. Et là, on va à Sepang avec Nico.
Voilà, on va à Sepang parce qu'il y avait des essais. Donc, c'était au début du mois. Il y a eu 3 jours d'essais à Sepang. Parce qu'on avait laissé le dernier GP à Valence en 2019, en novembre, avec une nouvelle victoire pour Marquez. Hein, il a tout raflé. Et puis, une deuxième place de Fabio Quartararo. qui signait son 7e podium de la saison. Hein. C'est l'espoir, c'est vers lui que tout le monde converge, parce que c'est le seul qui arrive à... et qui devrait, alors qu'il est tout débutant, et qui devrait arriver à essayer de déloger Marquez, en tous les cas, de lui poser des problèmes.
Et Zarco, avec sa Ducati, ça va pas mieux ?
Alors voilà, donc on était curieux de voir tout ça, un petit peu ses essais, parce qu'on allait découvrir plusieurs choses. Alors effectivement, Zarco, il a eu un passage chez KTM qui ressemblait à une punition, et il a fait une petite pige chez Honda LCR en fin de saison pour un remplacement. Et puis finalement, il a trouvé refuge chez Ducati à Vinitia. Et il disposera de la moto de l'an dernier de Dovizioso. Donc c'est pas si mal, c'est une moto qui a gagné des Grands Prix. Donc on était curieux de voir ce que ouais, ça allait donner, sur la Ducati. On était aussi curieux de voir la forme de Marquez. Il s'est fait opérer de son épaule. Alors il y a 2 ans, il s'est fait opérer d'une épaule. Là, c'était l'autre. Et apparemment, il récupère moins bien. Donc il n'avait pas sa force habituelle, donc on était curieux de voir comment ça allait se passer. On était curieux aussi de voir les motos en MotoGP sont quasiment figées, à part l'électronique et quelques éléments de châssis, pendant toute la saison. Tous les ans, les ingénieurs travaillent pour que la nouvelle moto apporte quelque chose d'autre, soit un petit peu meilleure que la précédente. Donc on est curieux de voir pour la première fois rouler les modèles 2020 et voir si la hiérarchie est toujours là ou s'il y a des évolutions. Et puis, on voulait aussi savoir si Quartararo était toujours aussi à l'aise avec la IAM 2020 qu'il l'avait été avec la 2019, réputée très, très conviviale. Et puis, on voulait voir aussi comment allaient se comporter les petits nouveaux, notamment Alex Marquez, le frère de l'autre, hein, qui l'a rejoint dans l'écurie officielle Honda Repsol. Mmh. Et puis, dernier point qui, moi, me titille un petit peu, c'est Lorenzo. Lorenzo, il a fini sa carrière en fin de saison l'an dernier, en étant chez Honda, où il n'a jamais réussi vraiment à décoller, et puis où il s'est fait mal en fait. Hein. Il a eu des fractures de vertèbres, des choses comme ça, c'est pas bon. Donc il a eu un peu peur, et puis seulement il s'est dit j'arrête. Et il a été rattrapé par le gong, par Yamaha, et qui lui proposait un rôle de pilote d'essai. Donc là il allait remonter sur la Yamaha, une Yamaha avec laquelle il a été 3 fois champion du monde, donc on était curieux de voir ce qui allait se passer. Et on a eu quelques réponses. Hein. Alors moi ce qui m'a marqué le plus, c'est que pour la première fois, toutes les marques étaient dans le coup. C'est jamais arrivé, il y avait toujours, on va dire, KTM et Aprilia qui étaient en demi-teinte. Et là, elles sont toutes dans le coup, c'est-à-dire qu'elles sont toutes quasiment dans les mêmes temps, c'est très très serré.
Ça veut dire qu'il y a les bons pilotes sur les bonnes motos ou...
Ça veut dire qu'ils ont beaucoup travaillé chez KTM et chez Aprilia. Chez Aprilia, c'est spectaculaire, hein, parce que la moto a été revue complètement, moteur et châssis. Et Alex Espargaro, le pilote de pointe qui roule avec, il est vraiment enthousiaste. Et il peut l'être parce que sa simulation de course. Donc en fait, il faut faire attention. Il y a le temps. Quand on voit des temps bruts suite aux essais, c'est un élément. C'est celui qui est le meilleur sur un tour. Mais à l'intérieur, ils font avec le même pneu plusieurs tours d'affilée. Et là, on regarde si les temps se maintiennent ou pas. Et c'est ça la simulation de course. Et il a fait 17 tours dans les meilleurs temps qu'il l'aurait mis sur le podium. Avec une moto qui, l'an dernier, était complètement hors du coup. Mmh, mmh. Donc ils ont fait un très gros travail chez Aprilia.
Et chez KTM aussi, tu disais ?
Alors chez KTM aussi. Aprilia, ils ont un autre souci, c'est leur deuxième pilote. Leur deuxième pilote, c'est Iannone. Et il est suspendu pour dopage aux stéroïdes anabolisants. Alors, il a dit qu'il avait mangé un steak panette l'an dernier quand il était en Asie. Donc ils ont fait plusieurs analyses et à chaque fois ça va pas bien. Et en plus on le voit sur les réseaux sociaux en train de prendre des poses de gonflette. Donc ça plaide pas tellement en sa faveur.
Il vaut mieux pas qu'il ait violé une patineuse en plus.
Ben justement, c'est le genre de gars qui il est avec un top modèle et il s'affiche sur les réseaux sociaux sans arrêt. Il y a ces people. Hein, donc je pense que là, c'est un petit peu gênant pour Aprilia. Donc, ils n'ont pas de deuxième pilote.
Ah ouais.
Et en tous les cas, il n'a pas le droit de rouler pour l'instant. Ah ouais. Donc, on verra bien s'il y a une contre-expertise qui permet. On verra bien.
Faut qu'il arrête de manger de la viande, quoi.
Ouais. Pour Ducati et Honda, on a vu Dovizioso et Marquez qui étaient un petit peu en méforme. Et probablement aussi des nouveaux pneus, parce que Michelin a apporté des nouveaux pneus, une nouvelle carcasse, parce qu'on reprochait au Michelin de perdre beaucoup de grippe en s'usant. Et là, ils ont apporté des pneus qui ont d'entrée amélioré les temps et la tenue à l'usure pour tout le monde, sauf la Honda et la Ducati. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais eux, ils étaient moins enthousiastes sur ces nouveaux pneus. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que Ducati et Honda étaient un petit peu en demi-teinte.
Bah ouais.
Et pour Quartararo, Quartararo, il reprend là, il nous avait laissé en fin de saison, au top. C'est lui qui a fait le meilleur temps, c'est lui le meilleur sur un tour. Mais il n'était pas tout à fait satisfait parce que sa simulation de course, justement, était un petit peu moyenne. Et sa moto manque toujours de vitesse de pointe. Hein. Il a quand même 10 km/h de moins que les meilleurs. Et Yamaha avait annoncé travailler cet hiver pour réduire le déficit de vitesse de pointe de leur moteur, mais comme les autres ont progressé, on est au mieux, on a fait la moitié du chemin, quoi. C'est pas encore cette année que ça va aller, ou alors il faut.
C'est combien la vitesse de pointe dont on parle ?
Oh, ils sont dans les 320 km/h sur la ligne droite. Ça dépend des circuits en fonction de la longueur de la ligne droite, mais oui, c'est impressionnant. Hein. On dépasse 300. Et puis alors Zarco, qu'est-ce que ça donne sur le Ducati? Ouais. Il était un petit peu en mode diesel. Hein. Moi, je l'ai trouvé plutôt moins à l'aise que lorsqu'il a fait une pige chez Honda en fin de saison l'an dernier. Le bon côté, c'est qu'il a changé de mentalité quand même. Il accepte mieux de modifier son style de pilotage. Ce l'an dernier, et chez KTM, le souci qu'il avait, c'était ça. C'est-à-dire qu'il arrivait là, il dit « Moi, je suis monté sur le podium avec des motos, si je monte plus, c'est que la moto, elle va pas.
Ouais, » ouais.
Mais non, c'est pas la même moto, donc il faut adapter son style de pilotage, et c'est tout l'art du pilote,
ouais.
de prendre les bons côtés de la moto et de l'amener là où elle peut aller.
Et sur la Ducati, il trouve plus facilement ses marques ?
Disons qu'il accepte de se remettre en cause, c'est-à-dire que le staff technique lui dit « Non, une Ducati, ça se pilote pas comme ça, il faut faire plutôt ça, on est moins bon en entrée de virage, mais on est meilleur en sortie, donc il faut privilégier ceci. » Donc il apprend. Et finalement, quand on regarde les temps, il est pas si mal. Hein. Il était 19e, mais à 6 dixièmes du premier. Donc c'est des temps très serrés.
Ah ouais.
Donc, je pense que ça, s'il travaille, il aura le déclic comme l'a eu Lorenzo par le passé. Hein. Y a Suzuki qui impressionne aussi parce que ils ont la maniabilité et la vitesse de pointe. Il y a que deux moteurs qui sont des 4 cylindres en ligne en MotoGP, c'est la Yamaha et la Suzuki. Et apparemment, avec ces moteurs-là, on a plus de mal à avoir une vitesse de pointe importante qu'un V4. Et Suzuki, lui, a réussi. Suzuki a maintenant un moteur beaucoup plus puissant. Et ce moteur a une maniabilité qui est meilleure parce que la moto est plus courte. Et on arrive à faire des motos plus courtes. Et donc, elle a la même maniabilité quasiment que la Yamaha, mais avec la puissance en plus. Donc, le pilote principal, Rins, là, qui a déjà gagné 2 GP l'an dernier, il a une moto encore meilleure et ça va être un client cette année.
Oh.
Et puis alors après on a le bonheur de voir Rossi toujours dans le coup, hein, ouais. Parce que c'est quand même 41, 42 maintenant, hein, il est toujours là. Alors il est dans les tout bons, hein, quatrième temps, régulièrement dans les temps. Et puis si sa saison est bonne, il va continuer. Mais il va laisser sa place dans le team officiel à Quartararo parce que Yamaha s'impatiente un petit peu d'avoir l'avenir et de ne pas laisser partir ses talents. Et puis ça lui va bien de finir le team Petronas qui a montré qu'il était un top team également, hein, ouais. Avec une moto qui sera la même. Donc on risque de le voir encore l'an prochain avec d'autres couleurs. Et puis, on peut saluer pour la performance de Pedrosa. Pedrosa, c'est pareil, c'est un pilote qui a trouvé refuge en étant pilote essayeur chez KTM, donc une moto pas facile. Et c'est lui qui a fait le meilleur temps sur la KTM devant tous les autres pilotes, y compris Paul Espargaro, qui pourtant était le pilote le plus rapide sur KTM jusqu'à présent. Donc, il a fait une sacrée performance. On peut saluer, hein, il est toujours aussi sympa d'ailleurs Pedro, hein, il est très humble et apparemment il a bien fait évoluer la moto. Et puis alors il y avait notre Lorenzo là, pour lui c'est plus compliqué, hein, On s'est demandé en quoi il a testé quelque chose, parce qu'il a roulé qu'une seule journée, et avec la moto 2019, donc c'est pas avec ça qu'il va tester. Et il n'était pas très en forme. Je pense qu'il a toujours des soucis physiques, qu'il n'a pas repris la confiance. Il marche beaucoup à la confiance, donc il n'était pas encore dans le coup. Enfin, ce ne sont que des essais, hein, mais ouais, bon, voilà. Ça fait... En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau n'a jamais été aussi serré.
Donc ça promet du spectacle,
ça
alors.
Ça promet du spectacle, hein, pour cette saison, qui va s'ouvrir le 8 mars au Qatar, et qui sera précédé de 3 jours d'essai à partir du 22 février. Donc dans une semaine, on est reparti pour 3 jours d'essai. Et puis après, le 8 mars, ça sera le premier Grand Prix de la saison au Qatar. Tristement, donc sur ce circuit désert, avec où ils sont obligés de rouler la nuit parce qu'il fait trop chaud, et où il y a 3 spectateurs avec un torchon sur la tête.
Quel endroit, les 3 jours d'essai ?
Au Qatar.
Au Qatar même.
Au Qatar aussi, oui. Ouais. Ils sont sur place. Ouais,
pour le développement durable, c'est pas terrible quand même.
Alors, ils vont sur place, justement parce que il faut rouler avant au Qatar, parce qu'il y a tellement de sable qui vient du désert, ouais, que la piste est dégueulasse. Donc les essais servent aussi à nettoyer la piste.
Ok, ouais.
S'ils déboulaient juste comme ça, la piste serait impraticable quasiment.
Ils en collent les pneus avant les essais pour prendre le maximum de poussière.
Ouais, là, je pense que ça dépose de la gomme, ça donne du grip et ça nettoie, ça renvoie la poussière un petit peu.
Ok, on retrouve de toute façon le calendrier des GP dans le calendrier à la page numéro 5. Merci voilà, Nico. Tu viendras nous reparler du Qatar la fois prochaine.
Dès le premier Grand Prix, ouais, on verra si on a bien vu les forces en présence.
Super.
Pray for me.
Et on va continuer de voyager avec Kikinkou et on va aller en Allemagne, à Sola.
Oui, en Bavière, à la frontière tchèque.
C'est ça, ouais. Voilà. Il y a combien de bornes d'ici?
Un petit 1000 km.
Un petit 1000 km
à peu près.
C'était la première fois que tu y allais?
C'est la première fois. Si vous, c'est un truc, ça fait longtemps que je voulais y aller. Et les éléphants au Nürburgring, je les ai fait 8 fois et ça fait très longtemps que je voulais y aller. Et apparemment, tous ceux qui y sont allés avant, c'était quelque chose comme la retraite de Russie sans les Cosaques. Hein. C'était la fin du monde, ils n'allaient plus jamais y revenir. Ils ne voulaient plus y retourner. C'était...
Allez, à ce point-là.
Ah ouais, c'était quelque truc... chose. Hein. Sans quoi, ça fait longtemps que j'y serais allé. Je n'ai quand même pas y aller seul. Et là, c'était l'occasion. Bah oui, mais seulement là, ça ne ressemblait pas vraiment à la retraite de Russie. Hein. Ah non.
C'était là, plutôt la gadoue, c'est ça?
C'est ça. Il y avait vraiment, il faisait pas froid. Il fallait au plus froid le dimanche matin, il a peut-être fait 4 ou 5 degrés, je veux dire. C'est loin d'être. Par contre, de la boue, de la pluie, des orages,
des grêles,
des pauvres, tout. C'était dantesque, mais point de vue température. Hein.
Vous étiez combien?
Alors, nous, on est partis du nord, on était 5. Enfin, 5 motos, on était à 5. Normalement, on devait être 6, pour finir, on s'est retrouvé à 5. Et on rejoignait des Toulousains. Donc, eux, ils sont montés, ils étaient à 6 avec 2 sidecars, ils avaient 2 sidecars, à Munich. Et donc, la première journée, nous, on a été jusqu'à Munich. On a dormi là-bas dans une auberge de jeunesse. Et le lendemain, on est parti donc de Munich jusqu'à Sola. Là, il restait quoi, 200, 250 bornes, peut-être, tu vois. Enfin, des petites routes sympas, c'est joli, quoi. La Bavière, c'est quand même joli. Et puis, arrivé là-bas. Donc, mais déjà, sur la route, pour y arriver, il y avait déjà pas mal de gens qui repartaient. On les a vus. Au début, je me suis même demandé, c'est peut-être gouré, c'est peut-être dans l'autre sens, depuis tout à l'heure. Et non, c'est quand on est arrivé là-bas. C'est quand même un truc assez particulier, quoi. Tu arrives là-bas, c'est on dirait une sorte de grand cratère. Ça fait un grand trou énorme. Hein. Et quand on est arrivé, c'était vraiment de la bouillasse. Hein. C'est que juste tu vas prendre des places pour pouvoir t'inscrire, quoi. Tu rentres dedans. Coup de la bécane jusqu'au moyeu, presque t'avais de la boue. La bécane, elle tenait presque toute seule comme ça. Alors t'étais emmerdé pour béquiller. Tu te dis, c'est bon, tu vas mettre ton truc, il faut que quelqu'un qui te la tienne. Enfin, c'était quelque chose.
Et tout le monde campe là-bas?
Ouais.
Et tu peux mettre la tente?
Il y avait de la place au départ. On n'est pas descendu très fond, enfin très loin dans le trou. Mais les Toulousains tenaient absolument à aller au fond du trou. Et moi, je me souviens bien que l'ami s'y disait, il faut jamais aller au fond du trou, il faut pas y aller.
Parce que t'arrives pas à remonter, c'est ça?
Ah, bah déjà, descendre, c'était rock'n'roll, parce que de la berdoule en descendant, c'est pas terrible. Et puis ça descend fort. Hein. Et alors remonter, alors je dis pas. Hein.
Mais ça fait partie du spectacle, finalement.
Ouais, c'est ça. Mais un peu, tu sais, ah ouais, justement, alors comme ça monte partout et que ça descend, là-bas, c'était plein de montées sauvages. Tu vois les mecs avec 2 grammes, alors c'était bon. Donc la berdoule, ils essayent de monter, ils y arrivent pas, il faut pousser, tu verrais le truc. C'était rock'n'roll quand même là-dessus.
Et tu as des personnages
Moi, je trouve qu'il y a moins de fun que tu peux en avoir au Nürburgring. Autant au Nürburgring, je trouve qu'il y a des moments, c'est quand même assez...
folklorique. Folklorique.
Il y a des gens...
C'est limite nazillon.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... Alors que là-bas, j'ai trouvé que les gens étaient tous vachement...
Après, c'est peut-être beaucoup plus loin aussi, et ça mérite... C'est plus davantage les puristes, peut-être, qui vont aussi.
Je suis pas si certain, tu sais, il y a des gens qui venaient de Tchéquie, de machin, ils viennent d'à côté, celui qui vient de Munich, c'est pas très loin. Je pense qu'il y a plus de population évidemment sur la Ruhr, et donc t'en as plus vers le Nürburgring que tu peux en avoir là-bas. Mais j'ai trouvé que les gens étaient plus, c'était plus convivial, plus gentil, plus, parce que c'est vrai que Nürburgring, il y a quand même pas mal de sortes de fachos. Évidemment, tu te demandes si c'est pas un rassemblement.
Alors, ouais, mais c'est peut-être aussi à cause de la, de l'histoire, quoi.
Ah oui, non mais.
Non mais parce que même pour cela, il y a un mythe. Où on ne sait pas si c'est un mythe ou une réalité, parce qu'on dit que c'était en fait avant un rassemblement des nostalgiques de la Wehrmacht qui, après la Deuxième Guerre mondiale, qui finalement ont fait les éléphants, quoi. Après, on ne sait pas, hein, parce qu'apparemment, c'est plutôt la mythologie.
Ouais, les éléphants, ça vient de la Zundapp qui s'appelait l'éléphant vert, la moto. C'était le surnom de la moto.
Les sidecars, les KS-601.
Et entre 600, le Nürburgring et Sola, c'est au niveau anniversaire. C'est qui le plus vieux, c'est Sola?
Non, c'est Nürburgring.
C'est Nürburgring.
C'est-à-dire que comme il y a eu des gros problèmes au début des années 70, il y a même eu un mort, des bagarres et des...
Aye.
Donc ils ont déménagé et au départ ils ont même été en Autriche,
à Salzbourg.
Et après ils ont été à Sola et à Beaujour, ils ont refait ceux au Nürburgring. Donc aujourd'hui il y a 2 éléphants. Donc là, ce week-end-ci, c'est celui au Nürburgring.
C'est ça.
Donc à Sola, c'est toujours 15 jours avant l'autre.
D'accord. Okay. Et c'est beaucoup plus près.
Nous, forcément, Zola.
Nürburgring, il y a 400 km pour nous.
Nürburgring, ça a coûté. Je veux dire, tu vas tranquillement.
Il y en a beaucoup qui ont dit Zola, c'était super bien. Bon, mis à part la pluie et la boue. Par contre, tu payes 30 euros pour rentrer. tu payes ton bois, bien sûr, comme Nürburgring. T'as même pas un concert, t'as rien,
tu
même pas une soupe à l'oignon, t'as rien.
Pour planter ta tente, quoi.
Tu payes 30 euros pour planter la tente.
Même pas une soupe à la choucroute ?
Non. Non, mais même pas, pas de soupe.
Ça, c'est, pas moins, c'est pas sympa.
Tu vois, faire un petit truc sympa, quoi.
Le but de ces rassemblements-là, c'est justement de se rencontrer et d'avoir des moments conviviaux.
Il n'y a rien, il n'y a rien du tout.
Ah, mais le teuton est commerçant. C'est sûr que quand tu vas au Mille Vaches, t'arrives là-bas, bon, tu payes l'entrée, c'est qui est nettement moins cher, et il y a un stock de bois, là, je ne sais pas.
Ouais.
Et c'est énorme, tu te sers autant que tu veux, c'est gratuit. C'est vrai que tu vas là-bas, c'est, je crois, 1 euro la bûche, je vais plus te dire le prix, enfin, un truc comme ça. Mmh. Et si vraiment il fait, suppose qu'il fasse vraiment moins 10 ou moins 15, tu sais que des bûches...
T'en consommes beaucoup, ouais. Mais c'est aussi une constante à l'ancienne, en fait. Chacun ramène ses trucs et tu peux quand même partager avec tes voisins.
Oui, tout à fait. Mmh. Non, mais bien sûr, tu découvres tout. Voilà, il y a des gens... Il y a des gens quand même, hein, c'est pas les gens qui y vont.
Et
y a
la communauté française est importante là-bas ?
Il y a quand même pas mal de Français, j'ai trouvé.
Ouais.
Je pensais en avoir moins là-bas, pourquoi tu veux dire que tu vas au Nürburgring, la France est quand même pas très loin, donc il y a quand même pas mal de Français. Mais là-bas, c'est quand même plus loin, mais il y avait quand même pas mal de Français. Par contre, des trucs que tu vois pas ici, évidemment, des Tchèques, des Autrichiens, des Italiens, oui, ils sont de l'autre côté.
Et des motos aussi, alors, du coup ? Alors, des motos un peu différentes.
Contrairement à ce que tu peux par exemple au Nürburgring, alors il y a des gens qui doivent venir de juste à côté, tu vois, tu as des petites 125, des machins, donc ça ne va pas venir de très très loin, tout ça. Mais c'est beaucoup de motos modernes et en bon état.
Des sides aussi, non ?
Oui, il y a pas mal de sides. Bah, oui,
pour ramener le bois.
Pour le principe, c'est vrai que le side, c'est quand même. Si vraiment il devait faire le temps qu'il devait faire, c'est quand même la moto idéale, quoi, je veux dire. Ouais. Rouler sous la neige ou le verglas, c'est quand même mieux un sidecar qu'un solo.
Et tu y retourneras alors ?
Bah écoute, à Zola, il y a peu de chances que je... Enfin, je ne dis pas que je ne vais pas y retourner, mais il y a peu de chances quand même. Parce que c'est un truc que j'avais prévu à l'avance. Si tu veux, tu as pris un hôtel. Au retour, c'est pareil. Même, on est parti tôt, parce que les Toulousains, ils ont, eux, forcément, ils avaient beaucoup plus de routes, ils sont partis plus tôt. Et si Pascal était en bon état, on serait certainement parti plus tôt qu'on est parti. On est parti à 9h30. Alors en général, moi je suis à 9h30 au Nürburgring, on n'a même pas déplanté la tente. Hein. C'est, la biche se lève au mieux à 9h30 déjà d'avance, donc t'es tranquille. Et donc on est parti assez tôt, 9h30. Et au départ, il n'y a pas plu pendant 20 bornes. Tu te dis, bon an, mal an, si ça passe, ça se passe comme ça. J'ai réservé un hôtel à Bonn, je dis, c'était pas vraiment nécessaire. Ouais. Mais là, il s'est mis à pleuvoir, mais alors quelque chose. Hein, je peux affirmer qu'arrivé à Bonn, j'étais content de
pouvoir... De sécher un peu.
C'était quelque chose quand même.
D'accord. Donc, ça donne envie ou pas ? Ça vous donne envie, vous ? T'es jamais allé, Nico ?
Non, je suis jamais allé cela. Non, mais c'est vrai que le réchauffement climatique, ça change tout.
Ouais.
Il faut aller dans les Alpes, hein, dans le Vercors.
L'année prochaine, on fait un truc.
Ouais.
En sidecar.
Parce que là-bas, à la base, c'est une piste où tu peux faire du ski.
Il doit y avoir du ski à côté. Hein. Moi, j'ai vu, il y avait des machins avec des panneaux. Apparemment, il doit y avoir des trucs de ski à côté.
Une station de ski pas loin, oui.
Ah, ouais. C'est vrai que pour y arriver, ça monte et ça descend, mais fort. Hein. Si bien qu'en repartant, tu te dis, si vraiment c'est du verglas, je ne dis pas la descente. Hein, puis ça ne fait pas 2 km hein, avant d'arriver au premier village, y a quand même, puis ça descend fort. Quand même.
Ah ouais.
Parce qu'on a des copains qui sont allés plusieurs fois, ils avaient dit moins 20, moins 25. C'était dans la neige, glace.
Avec des motos qui ont du mal à démarrer, qu'il faut réchauffer.
Quand t'écoutes Pascal en parler, ça fait longtemps que je voulais y aller. Pascal, jamais, à l'entendre parler, je te jure, il manquait plus que des ours et des loups. Quoi. C'était la fin du monde.
Ouais, même la route, hein, ils ne retrouvaient plus leur moto sous la neige. Le lendemain matin, après avoir coupé la route à l'hôtel, ils sortaient de l'hôtel et ils ne voyaient plus leur moto tellement il y avait de neige. Hein. Donc c'était épique, quoi. Mais on a plus ça.
Bon, moi, j'ai pas connu ça. Donc
parce
voilà.
Que tout bon moutard dit faut aller au moins une fois là-bas.
Aux éléphants.
Ouais. Enfin, bon, c'est vrai que ça fait quand même 1000 bornes aller, 1000 bornes retour.
Pour prendre un bain de
boue. Pour juste une nuit, pour un bain de boue.
Ah non, non. À Munich, j'ai mangé des bretzels qui étaient grands comme des gâteaux et des chopes d'un litre. Une gonzesse qui arrive qui t'emporte 10 d'un coup. Alors je te dis pas, toi.
T'as été pour les bretzels, les chopes d'un litre ou les gonzesses en chope ?
À la porte de boîte,
c'est pas tout.
La prochaine fois, j'y vais.
Si elle emporte 10 d'un coup, c'est qu'elle est costaud. Hein.
Oh bah ouais,
mais tu comprends pourquoi elle gagne la guerre. Hein.
Donc la prochaine fois, c'est dans les Vosges, alors, c'est ça ?
Non, dans les Alpes. Certainement, on va faire une concentration. Mais alors, l'année prochaine, il est quand même prévu, normalement, d'aller au Nürburgring. Parce que j'ai quand même pas resté sur des éléphants sans neige.
Combien c'était revenu? Ça coûte cher
d'aller ça a coûté quand même, je sais pas, 200-300 euros, c'est sûr. Ouais. Bah déjà, tu fais 2000 bornes d'essence.
Déjà, un hôtel en route, deux hôtels.
Des hôtels, manger au resto une paire de fois. Après, c'est sur l'autoroute, il faut bien que tu manges. Donc,
l'essence surtout.
Steak frites sur l'autoroute, c'est pas donné non plus. Donc, en tout, je sais pas, entre 200 et 300 euros.
Ok. Donc, quand tu retourneras au Nürburgring, tu viendras nous en reparler.
Voilà, il n'y a pas de souci.
Ok, ça marche. Après cela, on va dans le sud du département du Nord pour retrouver notre ami Lionel. T'es avec nous, Lionel?
Oui, salut Luc, salut, enfin Luc Luc, salut Laurent, ouais, ouais. Salut tout le monde de l'équipe de Kikaku, salut Nico.
Salut. Il fait du vent chez toi?
Ah là 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 là, j'espère que ça va pas trop souffler mes paroles.
Et donc ton salon, c'est le 1er mars, c'est ça?
Voilà, alors salon, on n'a pas vraiment de nouveautés, hein. On a surtout des nouveautés, si on en a quelques-unes, mais c'est pas vraiment des nouveaux modèles, c'est des modèles qui ont été faits, des modèles très personnalisés. voilà. Et puis on a aussi des petites cylindrées anciennes, des plus grosses anciennes, voilà.
Ouais, puis il y a pas mal de, tu proposes pas mal de choses quand même.
Ouais. On essaye d'avoir chaque année quelques petites curiosités, quelque chose. Le but c'est d'avoir des choses un petit peu originales à voir. Là on aura encore normalement le Handicap Motard Solidarité qui est là depuis en général quelques années. On a on a le musée Motobécane qui sera représenté, qui est là de Saint-Quentin, qui n'était pas là l'année dernière, qui était là l'année d'avant, mais qui sera là cette année.
Ils vont ramener des bécanes.
Alors ils ramènent 4-5 bécanes, ils vont essayer, mon petit dit peut-être, d'amener une 350 Tobec. Alors ça c'est pas mal parce que c'est une curiosité, on n'en voit pas tous les jours. Et c'est vrai que pas l'année dernière, l'année d'avant, à Moto Légende, salon Moto Légende Porte de Vincennes, c'était celle qui était mise à prix plus cher, puisqu'elle était à 18 000 euros. Ça m'avait d'ailleurs un petit peu estomaqué, 18 000 euros pour une 350 Tobec, waouh, quand même. Ouais. Voilà, donc il y a musée Motobécane de Saint-Quentin. On devrait avoir aussi normalement une ou deux petites curiosités qui sont des motos 2 et des motos 3. Alors il n'y a pas longtemps que j'ai entendu parler de ça. Alors je sais pas, Nico, qui est apparemment spécialiste de compétition.
C'est des catégories. Donc en Grand Prix, il y a le MotoGP, puis en dessous, il y a le Moto 2. Donc c'est des motos avec un moteur 675 Triumph. Et puis il y a Moto 3 qui sont des 250. Qui servent maintenant de catégorie d'entrée.
Apparemment, c'est ce qu'on m'a un petit peu dit. Alors, c'est Nico Bonduel qui fait de la compétition, qui a un magasin sur Cambrai et qui fait de la compétition avec son fils. Et c'est lui qui, normalement, si tout va bien, m'a dit « je t'amène les deux motos à exposer ». Et visiblement, c'est des motos qu'on ne voit pas forcément très souvent. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup, visiblement, en France. Et puis parce que, qu'il n'y en a pas beaucoup, on les voit pas forcément régulièrement. Voilà, donc ça serait, je ne sais pas si Nico me confirme aussi, que c'est une petite curiosité.
Bah oui, on n'a pas l'occasion de les approcher, les pilotes qui sont dessus, oui, c'est bien.
Voilà, donc elles seront là. On a des choses qu'on a un petit peu d'habitude aussi, des motos un petit peu d'exception, des motos particulières, de particuliers aussi, avec des personnes qui font des motos eux-mêmes. On a un petit vivier ici sur la Vénois de quelques personnes qui sont qui fabriquent des motos. Il y en aura certainement, je pense qu'il y en aura une ou deux à vendre d'ailleurs, si j'ai bien compris, et d'autres à exposer. Et puis il y a il y a des petits stands aussi avec des produits d'entretien, avec des t-shirts, avec des choses comme ça. Il y a un groupe de musique qui était venu l'année dernière, qui nous fait des reprises un peu rock and roll, qui est très sympa.
Et cette année, vous avez une invitée de marque.
On a une invitée de marque qui sera là aussi le samedi soir. Et c'est, j'allais dire, elle sera là le dimanche, mais elle sera là surtout le samedi soir. Donc Anne-France d'Hauteville, avec qui je communique régulièrement depuis quelques semaines, forcément, pour préparer un petit peu sa venue, par mail et par téléphone, qui est effectivement un personnage. Il y a un personnage et une grande dame pour moi.
Une pionnière du voyage en moto.
Pionnière, complètement, une pionnière de la moto. Donc elle sera là le samedi soir, le samedi 29 à la médiathèque d'Aulnoy-Aymeries. Donc superbe médiathèque avec un auditorium qui peut tenir à peu près 50 à 100 personnes, donc j'espère qu'il sera bien rempli. Pour l'occasion, j'ai essayé aussi de mettre un petit peu un contexte à cette venue. Donc normalement deux motards qui amènent une 100 Kawasaki. La 100 Kawasaki, alors déjà des années 70, donc déjà pour trouver une 100 Kawasaki, c'est pas gagné, je savais même pas que ça existait au départ. Et puis en fait, j'ai un motard de Valenciennes, donc c'est pas très loin pour nous, qui a une 100 Kawasaki, qui, c'est pas exactement la même, mais qui est le même modèle sur lequel donc Anne-France d'Hauteville a fait son tour du monde en
73. Ouais.
Voilà, donc normalement j'aurai cette moto-là, qui sera aussi dans la médiathèque, pour bien visualiser un petit peu le type de machine sur lequel le périple a été effectué. Et puis normalement j'ai un gars près du Quesnoy, Louis Quesnoy, qui un motard qui m'amène aussi une 750 BMW sur la même machine sur laquelle Transdeville a fait son tour d'Australie.
Donc
voilà, je suis toujours à la recherche d'une 750 Moto Guzzi, pareil des années 70, mais pour l'instant j'en ai pas trouvé.
C'était la première moto avec le Raid Orion. Ouais.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai mon cousin qui est motard depuis des années qui m'a dit j'ai peut-être une idée, je vais essayer de contacter, d'essayer de voir, mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on aurait une ou deux motos déjà. plus des photos, plus effectivement bah, Transdonville vient avec avec sa plume pour pouvoir faire des dédicaces. Alors les bouquins, bah, je ne savais pas trop comment ça se passait, donc on m'a expliqué que dans le monde de la librairie, bah, il fallait que je passe par un libraire et que en fait c'était pas l'auteur qui venait avec les bouquins. Donc j'ai trouvé une librairie à Maubeuge, qui la librairie Gauvent, pour ne pas la citer, qui veut bien venir avec des exemplaires, qui seront donc dédicacés par Anne France de Ville. Et puis aussi quelques exemplaires à l'unité plutôt de d'autres livres que puisque Anne France de Ville, nous on la connaît en tant que motard pour les livres qu'elle a écrits sur ses périples en moto, mais elle a fait plein d'autres livres, le plus récemment sorti au mois d'octobre, qui traite de la mythologie grecque. Voilà, qui s'appelle Harmonie.
Elle en a écrit aussi sur le jardin, les plantes.
Voilà, sur les plantes, sur. Ouais. Exact, tout à fait.
Elle aime bien, ouais.
Voilà. Elle sera là le samedi soir, donc avec une petite projection, avec un échange avec le public, évidemment, avec des dédicaces. Et puis, on terminera sur, comme on sait bien faire, bienvenue chez Lesti, hein, on terminera par une flamiche au maroilles, un petit flamiche au maroilles avec une bière, voilà. Et ça, une France de vie, mais beaucoup, d'avoir un temps convivial avec les personnes qui vont venir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Donc la soirée avec Anne France, c'est donc à la médiathèque, hein, place voilà, du 8 mai 45, c'est ça?
Voilà, place du 8 mai 45, rue Mirabeau, à Aulnoy-Aymeri, à partir de 18h, jusqu'à, je suppose, 20h, 20h30, 21h. Je suppose que ça va durer 2 heures, un peu plus.
C'est gratuit, l'accès est gratuit ou...
Tout est gratuit, y compris la dégustation de flamiche au maroilles. et la bière, voilà.
Tu nous mets l'eau à la bouche, là.
Voilà, non, tout est gratuit parce que j'essaye toujours de trouver des petits deniers par-ci par-là. Bon, on bénéficie à la fois pour l'avenue dans le Transdonville et puis de la journée moto, du soutien de la municipalité d'Aulnois, mais aussi du fonds de participation des habitants. On a la chance d'avoir encore, je ne sais pas pour combien de temps, un fonds de participation des habitants à Aulnois qui a bien voulu nous suivre pour nous apporter un petit soutien financier sur l'avenue d'Anne France d'Audeville et sur la journée moto du lendemain. Donc voilà, tout est gratuit. La journée moto, c'est pareil, tout est gratuit entre guillemets.
Et ça, elle se passe où, elle? À la salle des sports, c'est ça, de la TOC?
Voilà, c'est ça, la salle des sports de la TOC, hein, c'est une grande salle de sport, un hall de sport, hein, c'est une vieille salle entre guillemets, mais qui pour l'occasion fait très très bien l'affaire, qui nous est mis à disposition gracieusement. Donc en plus du coup, on ne fait pas payer ni l'entrée, ni les exposants. Il y a aussi une bourse moto, j'entendais que vous parliez tout à l'heure de Wascal, c'est un peu pareil, on peut aussi vendre des pièces, des bouquins, des motos. On ne demande pas de participation financière. On avait commencé, quand on l'avait commencé les 2-3 premières années, on demandait, puis on s'est finalement aperçu que c'était pas très opportun. Notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on peut vendre des choses sur le Bon Coin, sur Facebook, sur autre. Donc voilà, tout est gratuit. La seule chose qui est payante, c'est les consommations, c'est-à-dire le bar, et puis à manger, des croque-monsieur, au maroilles, entre autres, évidemment, des crêpes, des gaufres, du vin chaud, du jus d'orange, de la soupe. Voilà, enfin, il y a vraiment de quoi passer une bonne journée, et le samedi, une bonne soirée.
S'il y a quelqu'un qui veut tenir un stand, c'est encore possible?
Bien sûr, ouais, il suffit de m'appeler, hein. Voilà, mon numéro. De toute façon, mon numéro, il est sur les. Tout le monde le connaît. Même au plus haut sommet de l'État, je suis suivi par les RG.
c'est celui qui est dans le calendrier, c'est le 0327, c'est ça?
Alors, t'en as un, c'est le 0612 48 73 29.
Ça, c'est ton numéro perso?
Voilà, c'est celui sur lequel on cause en ce moment.
D'accord. Mais par contre, celui qu'on a mis dans le calendrier, c'est un 0327, c'est celui de la mairie, je crois.
Ah, c'est possible, ça. C'est possible.
On peut t'appeler à la mairie aussi, c'est pas un souci.
Éventuellement, mais c'est mieux de m'appeler sur mon portable. C'est plus
okay,
facile.
Ok, ça roule.
C'est bon. Plus facile.
Ok, écoute, moi, je viendrai faire un tour. Hein. Moi, ça me donne envie. Déjà, rencontrer Anne France et puis ensuite faire un tour à ton salon, ça a l'air sympa.
Ouais. Donc voilà. Donc j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Hein. J'ai pas tout dit, mais après, au moins, ça donne
envie. Tu nous as donné envie. Ok.
Bon, c'est bien.
Ok, on dit au 1er mars alors.
Eh ben merci, ben, le 29 février déjà.
Ouais, déjà le 29 février. Ouais. D'ailleurs, on avait prévu de séjourner chez toi, hein, tu te souviens, on t'en avait parlé.
Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a toujours quelques personnes, à la fois quelques exposants et quelques personnes du club, qui dorment dans la salle la nuit du samedi au dimanche. En plus, c'est en général bien sympa, bien convivial, parce que déjà le samedi après-midi, il y a pas mal de motos qui sont mises là, et donc ne serait-ce que pour une question de gardiennage, voilà, c'est un minimum. Quoi. Donc après, voilà. Après, accessoirement, ça peut m'arriver d'héberger chez moi, mais bon, voilà. Moi, je suis fort occupé aussi sur le truc, donc...
On sera pas beaucoup, on sera qu'une quinzaine seulement, ça va aller.
Ah, bah, ça va, ça me rassure, je vais bouger les meubles.
Ok, Lionel, bon, bah, voilà. D'abord au 28 et après au 1er mars.
Non, 29.
29, pardon, excuse-moi. Au 29 et au 1er mars.
Cette année, exceptionnellement, voilà.
Bisextile.
Ouais, tout à fait. Merci.
Merci à vous.
Allez,
bonne journée.
Ciao. Musique. voit qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Là, Laurent, il se laisse aller, hein. Il met du rock and roll.
Ah, c'est le rock.
on va voir la FFMC, on va au parc là, c'est
ouais,
ça
tout hein à fait. Bah, je te remercie. Effectivement, bah là, le premier dimanche de février, c'est pour l'Enduropal, hein, vous savez bien. Bon, là, moi, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler de l'Enduropal parce que finalement, j'y étais pas. Mais je suis allé au relais Calmos à Le Parc. C'est sur la route un petit peu avant Hesdin. Mmh. C'était l'occasion de retrouver mes amis de la FFMC 62, hein, qui sont les organisateurs d'un des deux relais Calmos de la FFMC. Parce qu'il y en a deux, il y en a un sur le parc, donc, et l'autre, il est sur la 16, sur l'aire de repos de la baie de Somme, qui est organisée là par les gens de la FFMC 80. Et, c'est, donc l'enduro, c'est quand même 2000 pilotes, femmes et hommes, qui participent. C'est 300 000 personnes qui passent par le Touquet en 3 jours, donc ça fait du monde, et ça dure depuis 45 ans. C'est une institution. Donc l'idée des relais Calmos, c'est d'offrir une occasion de s'arrêter aux motards pour qu'ils prennent un peu le temps de se reposer, de se réchauffer, de boire une boisson chaude gratuitement, ce qui est rare par les temps qui courent. Nettoyer la visière, gonfler les pneus éventuellement s'il y a besoin, graisser une chaîne, des petites choses comme ça. Évidemment, on en profite pour faire un peu de sensibilisation au thème de la FFMC, bah, comme le partage de la route, l'équipement des passagers, parce que ça, c'est un sujet qui pêche encore. Hein. Ouais. L'équipement des passagers... bon, il y a une petite tirelire pour ceux qui veulent mettre un petit sou, parce que ça aide pour l'organisation, parce que tout ça, ça fonctionne grâce au bénévolat, complètement, plus une petite aide de la mutuelle des motards, de temps en temps. Hein.
D'accord. Vous êtes nombreux à participer ?
À l'organisation, tu veux dire ?
Ouais.
Ah bah l'organisation, c'est couramment une quinzaine de personnes minimum, hein, parce qu'il y a le samedi et le dimanche, puisque le relais est ouvert le samedi à partir de 9h et jusqu'au dimanche. En général, on plie les gaules vers 18h. Mais donc, il faut du monde pour tenir la cafetière, pour faire les petites aides sur le parking, aider tout le monde à se garer, à repartir... et puis aussi être disponible. Il y a des petites animations. Cette année, il y avait une animation secourisme.
Ah ouais, d'accord. Il y avait aussi les premiers gestes de secours.
Voilà, exactement. Il s'était concentré sur quelques gestes précis dont il a fait la démonstration.
Ah oui, avec le mannequin.
Le mannequin, je vois que tu connais.
On les a eu au téléphone.
Bon, des fois, la préfecture, elle participe un peu, mais la fédération, elle aime bien son indépendance parce qu'il y a eu des fois des petits pièges à motards organisés par nos amis des forces de l'ordre. Donc, c'est mieux quand c'est indépendant. Bon, le parc a vu passer quand même 1000 motards.
Ah ouais ?
C'est pas rien.
Ah ouais.
Hein ? C'est peu, malheureusement, si on compare à la 16, puisque nos amis de la Somme, ils ont eu 2100. Boissons, ils ont compté les boissons, eux, pas les motos. Alors, ça n'est peut-être pas 2100 motards, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est des chiffres donc, qui sont importants. Et d'ailleurs, Philippe Ledinck de la Somme, il m'expliquait que depuis 25 ans, il n'y a pas eu d'accident mortel de motard entre son relais et le site du Touquet. Et rien que ça, c'est une bonne nouvelle, c'est sympa. Ça veut dire que se reposer en moto, c'est utile. Surtout quand tu viens de loin, parce que là, c'est un événement qui draine des gens de partout.
Et notamment quand parfois tu as des conditions climatiques.
Alors, bon, cette année, c'était plutôt la pluie et le vent, mais des fois, ça peut être le gel. Je me rappelle d'une édition où.
La neige aussi.
La neige, le verglas et tout ça. Bah. Donc, quand on passe dans le relais, c'est un petit peu l'auberge espagnole. Hein. On voit toutes sortes de gens. Et moi, ce soir, cette fois-ci, j'en ai retenu plusieurs. D'abord, il y a Jacques. Jacques, c'est un militant de la FFMC 62 qui dépasse les 80 ans. Il est venu sur une superbe Guzzi, puisqu'on parlait de Guzzi California 1100, qui a presque son âge, mais qui est toujours aussi vaillante que son conducteur. Puis d'ailleurs, qui est la seule moto qui a bien voulu démarrer le matin, donc il est venu avec elle. Il est très agréable, il est sympa. Son autre moto, c'est une BMW qui est aussi hors d'âge, mais qui aime bien un petit coup de radiateur avant de démarrer. Et là, il voulait être à l'heure, donc il a pris la California, qui elle démarre au premier coup de kick. Sinon, j'ai rencontré aussi non, il n'y a pas de kick, t'as raison. C'était juste pour dire le mot, j'aime bien, parce que comme on est à kick un coup, il n'y a plus beaucoup de motos avec un kick. Hein. Il y avait un chouette sidecar attelé à une Kawasaki Zephyr 750. Un sidecar rouge qui a été un peu amélioré par son conducteur.
Et alors, ce qu'il y a de pratique, c'est que lui, il s'assied dans son sidecar pour manger ses frites et faire le casse-croûte, parce qu'il était bizarrement tout seul sur son ensemble, qui a pourtant pratiquement 4 places, quoi. Mais bon, c'est pas mal. Et sinon, j'ai vu aussi une jolie Transalp 600V, un beau verre d'eau, pratiquement dans son état d'origine. La moto, elle avait l'air neuve. Bon, c'était joli à voir. Puis c'est une moto, justement, qui est un peu destinée à sortir des routes goudronnées. Donc ça tombait bien pour un jour d'enduro. Et dans les choses rigolotes, il y avait aussi une R1 Yamaha, qui est un petit peu capricieuse. Elle, par contre, il fallait la pousser pour qu'elle démarre. C'était rigolo parce que son conducteur a dû racoler un peu des motards présents sur le parking pour pouvoir redémarrer et rattraper ses copains. Mais je crois qu'il sort sa moto juste pour l'enduro.
C'est ça, ouais.
Voilà. Bon, c'était bien. Qu'est-ce qu'on peut parler encore? On peut parler d'une super chienne qui s'appelle Orca, qui est un mâtin de Naples, qui doit faire à peu près 50 kilos et qui est bien baveuse, qui est extrêmement amicale. Bah voilà, le café chaud, les gâteaux, c'est une ambiance sympa. C'est une ambiance détendue où on regarde les bécanes, où on prend le temps de se parler.
Il y avait aussi des démonstrations de gilets airbags, non, cette fois-ci?
Alors, il y avait un monsieur qui vend des gilets airbags dans le sac à dos. C'est un genre de sac à dos airbag.
D'accord.
Mais personnellement, j'étais pas trop convaincu, donc je me suis pas vraiment attardé sur le sujet. Et puis bah voilà, c'était l'occasion aussi de revenir par la campagne, parce que le matin j'étais un peu pressé d'arriver au relais pour retrouver les copains, donc je suis passé par la route la plus rapide, la plus directe. Mais pour revenir, ben justement, il y a la Ternoise qui est juste là, une petite rivière qui est un affluent de la Canche. Donc je me suis gentiment rentré par la Ternoise et puis la Clarence qui ramène vers la zone de Lens et la métropole lilloise. Heureusement, j'ai pu voir la course de l'enduro à la télé parce que...
on la voit beaucoup mieux à la télé.
On la voit vachement mieux à la télé parce qu'au final, je ne suis jamais allé jusqu'au Touquet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter.
Ok, Marco. Sinon, des nouvelles de la FMC, tout va bien?
Alors, la
FFMC, avez besoin de bénévoles, peut-être?
La FFMC, oh oui, elle a toujours besoin de bénévoles, ça c'est sûr. Elle a besoin d'adhérents. Des jeunes, ce serait encore mieux. La FFMC 59, elle s'est élue un nouveau bureau récemment, après l'Assemblée Générale qui a eu lieu il y a 3 semaines. On a élu un nouveau bureau. Ce bureau, il est décidé à avancer un peu, donc les choses se mettent en place tout doucement. Mais ça sent bon. Ça sent bon parce qu'il y a des gens qui sont décidés à travailler ensemble. Il y a des gens de différents horizons du département, et ça, c'est bien. La 62, ils ont aussi eu un renouvellement de bureaux assez important. Et devant nous, il y a des échéances qui vont se préciser, mais qu'on connaît déjà. Il y a les zones à faible émission qui vont s'installer et par le fait interdire la circulation à beaucoup de motos dans certains endroits. Il y a toujours le spectre du contrôle technique qui réapparaît régulièrement. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness, on le signale régulièrement sur les écrans. Donc là encore... Et puis, on verra bien ce que donne le remplaçant du maintenant ex-Monsieur Moto, Monsieur Barbe, qui nous a bien barbé quand il était là. Et on verra ce que donne le successeur, on ne sait pas encore.
Vous avez un site internet où on peut retrouver les actions qui sont programmées.
Il y a un site internet, il y a une page Facebook. On envoie des newsletters aux adhérents et on reste en contact.
Ok, merci Marco. Bon bah on arrive à la fin de cette émission. Je vais remercier Christophe qui est encore qui donne la boue là sur son blouson là. Il y a vraiment une belle peau aujourd'hui. Hein. Franchement là vous ça te va bien.
Tu vois que ça c'est.
Merci Nico pour cette analyse fine des essais de Sepang.
Ouais bah bon dimanche et puis bientôt la suite.
Béa, merci d'être venu.
De rien.
Tu peux venir quand tu veux.
Je sais.
Merci Marco, parce qu'en plus dimanche prochain c'est l'émission de Papate, la moto et les filles notamment, donc n'hésite pas à venir, t'es toujours la bienvenue. Merci Laurent pour cette programmation musicale de qualité encore.
Oh, c'est gentil, merci.
À dimanche.
Au revoir.